Chapitre 5. La destinée semblait demeurer favorable à Gustave. Ses parents, en effet, lui annoncèrent de Marraine que Papette Rességuier se préparait, malgré son âge, à partir pour Paris, et ils l'engagèrent à aller l'attendre à la descente du train en gare de Lyon. Ce serait indiscret, sans doute, de paraître s'imposer aux Cassagnoles, qui reniaient sans façon leurs amis de province. Mais les Morez n'avaient démérité en rien, ils avaient donc le droit de manifester qu'ils ne craignaient personne. Gustave, d'ailleurs, ne serait pas fâché de montrer à Madame Cassagnol, qui certainement se trouverait à la gare, qu'il n'avait pas eu besoin de sa protection pour se tirer d'affaire dans Paris. Un samedi, à 4 heures, Gustave demanda à M. Rucoin l'autorisation de s'absenter. Celui-ci, sans même s'enquérir de son motif de sortie, tant il s'intéressait peu aux préoccupations d'autrui, la lui accorda tout de suite. Dans le soir clair de février, les larges chaussées paraissaient bleues, glacées par l'ombre des hautes façades, dont le faîte étincelait des rayons du couchant. La ville, à mesure que Gustave s'avançait vers le centre, retentissait d'un tumulte plus grand. En gare de Lyon, il craignit d'être arrivé en retard. Il se porta auprès des tourniquets que franchissent les voyageurs. Le train, couvert de charbon et de poussière, stationnait déjà le long du quai. Des voyageurs impatients, quelques-uns entourés de parents ou d'amis, cherchaient la porte vers laquelle des employés canalisaient les ondes confuses de la foule. Enfin, Papette se présenta, vêtue d'un costume de velours, point trop étonnée ni là, un foulard au cou, la figure plus maigre qu'à l'ordinaire, ses yeux gris brillants comme deux gouttes d'eau. Auprès de lui, Madame Cassagnol, enveloppée d'un manteau de drap marron, s'efforçait en vain de s'emparer de son pardessus. Gustave, pris d'inquiétude, se retira prudemment contre une guérite de l'octroi, derrière un groupe de badauds. Ce ne fut que lorsque Papette et sa fille, ayant franchi le tourniquet, s'insinuèrent à travers la foule, dans le hall des bagages, qu'il les rejoignit. Papette, à sa vue, se redressa de surprise, et remettant alors son pardessus à sa fille, il ouvrit tout grand ses bras. « Toi, toi, que je suis content !» Gustave ne put qu'avec peine se délivrer de son étreinte. Il avait presque honte d'être si tendrement aimé devant Madame Cassagnol, qui avait trahi un mouvement d'ennui. Mais par orgueil, surtout par intérêt, elle lui tendit la main. « Bonjour, Gustave. Eh bien, vous habitez Paris ?»« Depuis un mois. Et votre famille, comment va-t-elle »«
Pas mal. Ah, pardon, n'oublions pas les bagages. »
Gustave, le long des rampes surchargées de caisses et de chapelières, les suivit à travers la foule houleuse. Dès qu'ils eurent reconnu la malle de Nézignan en bois de chêne, barbouillée de noir et rayée de bandes de poils de chèvre, Madame Cassagnol chercha un facteur complaisant. Ce fut Gustave qui, parmi les voyageurs effarés ou titubants de fatigue, découvrit dans la cour de la gare un taxi assez confortable. Papette Rességuier s'y installa le premier, dans le fond, en épiant les allures sournoises de sa fille. Celle-ci se décidait à soulever son manteau pour aviser le marchepied, lorsque, sur un ton d'autorité grincheuse, il s'écria « Tu ne viens pas avec nous, Gustave ?»«
Je ne sais pas, » répondit celui-ci penaud.
« Je veux que tu viennes, monte !»«
Parbleu !» acquiesça Madame Cassagnol, qui se casait, énorme et lente, auprès de son père.
Gustave monta donc, se fit tout petit, tremblant à la fois d'humiliation et de plaisir. Le taxi s'ébranla sur les pavés inégaux. Papette, qui de 24 heures n'avait entendu le son de sa voix, se mit à parler de lui, de sa maison, de son domaine, qu'il estimait plus précieux depuis qu'ils s'en étaient séparés. «
M'en a-t-il fallu du courage ? C'est que je veux me rendre compte de quels matériaux est fabriquée la vie de Paris et de quelle façon elle vous traite. »
« Ah, ma fille, tu ne m'as pas écrit souvent.
Je suis si occupée.
À quoi ? À faire des visites, à fréquenter des musées et des théâtres. Moi qui ne m'ennuyais jamais, je languis à présent dans mon jardin. Je ne pense qu'à vous. »
Papette tâchait, au cours de son bavardage, de saisir dans les yeux de sa fille un regret de l'avoir laissée seule, aussi un remords d'avoir renié sa patrie, où il y a chaque jour du soleil pour la terre et pour les âmes. Elle, impassible, comme ignorante des douces habitudes du Languedoc, écoutait par respect ses plaintes. Elle ne songeait en réalité qu'à la présence de Gustave, qui peut-être lui était imposée pour toujours. et Gustave ne songeait de son côté qu'à l'antipathie de cette femme, à sa haine qui était invincible parce qu'elle provenait de l'instinct. Qu'allait-on faire de lui une fois qu'on serait arrivé au domicile des Cassagnol? Est-ce que Papette exigerait encore qu'il l'accompagnât jusque dans sa famille? Et lui, Gustave, aurait-il la force de passer outre à ses scrupules pour satisfaire son désir de revoir Amélie dans le cadre nouveau où s'épanouissait, loin de lui, sa jeunesse insouciante? Il épiait, par la vitre de la portière, le chemin que suivait le taxi. Bien qu'il ne connût pas beaucoup Paris, il comprit, au-delà de la Seine, qu'on se dirigeait vers le quartier latin. Les Cassagnol avaient donc, par une sorte d'attrait, habité le même quartier que lui, sans que jamais il les eût rencontrés dans la foule. Madame Cassagnol avait indiqué au chauffeur son adresse, rue Toulier 11. Où donc était-ce au juste cette rue? À Montparnasse? À Montrouge? Le taxi s'engageait dans le boulevard Saint-Germain lorsque Papette, brusquement, frappa sur les genoux de Gustave. « Et toi, est-ce que tu t'habitues à cette vie de Paris ?»« Ma foi, oui. Elle est plus simple que vous ne croyez, surtout quand on travaille. »« Ça, c'est vrai. Le travail est une vertu qui soutient la volonté toujours droite. Je plains ceux qui ne travaillent pas. Ils sont obligés, pour dissiper leur ennui, de dépenser leur argent et les facultés de leur âme à la poursuite du plaisir qui les fuit sans cesse. Oui, mon fils, dans le désordre de leur orgueil, ils oublient même quelquefois la modestie de leurs origines et ils se préparent sottement, presque à leur insu, à trahir les êtres qui les aiment le mieux. » Papette parlait avec une vivacité étrange chez un homme de son âge que le voyage avait courbaturé. C'est qu'une colère fermentait en lui d'observer la froideur de sa fille vis-à-vis de l'enfant dont il appréciait la sagesse. Il se penchait vers lui par secousses frémissantes, puis il jetait à sa fille un regard de blâme et de défi. Celle-ci, assez habile pour ne point paraître touchée de ses allusions, l'approuvait d'un mot, d'un hochement de tête. Mais elle éprouvait à son tour le supplice d'une humiliation et, par rancune, elle détestait davantage le jeune Gustave qui souriait de temps à autre, rougissant de timidité. Avec quel empressement, quand le taxi s'arrêta au bord du trottoir, elle ouvrit la portière et descendit. On était devant une maison neuve, au coin de la rue Toulier, si courte que la rue Cujas sépare de la Sorbonne, dans une paix charmante. Les Cassagnol occupaient la moitié du cinquième. Cela fit rire le bon Papette de grimper aussi haut que dans le clocher de Nézignan. Il grimpait le dernier, sans hâte, afin de surveiller Gustave. Sur le palier du cinquième, il haleta de fatigue, surtout d'émotion, lorsque M. Cassagnol, toujours colère, rougeau, lui donna son accolade avant de l'introduire dans l'appartement. On entra donc dans la première pièce à droite. C'était le salon flambant d'élégance, avec tapis, tableaux, meubles neufs, plantes grasses. À peine si, dans son indolence, M. Cassagnol avait manifesté une surprise de voir Gustave. Tandis que sa femme ôtait son chapeau avec superbe, Papette s'était reposée dans un fauteuil, contre la cheminée. « Et Amélie, grommela-t-il, elle ne sait donc pas que je suis arrivée ?»« Me voilà !» Amélie accourait de la cuisine par le large couloir. Papette, sans se lever, l'embrassa de toutes ses forces. Puis, sur un ton de badinage, il lui dit « Je n'arrive pas seule. Regarde qui j'ai amené !» Amélie frissonna d'une douleur inquiète devant Gustave que, dans son effusion vers Papette, elle n'avait pas remarqué et qui lui tendait les mains doucement, avec bonté. Plus blonde aux lumières du salon, trop jolie dans sa coquetterie recherchée, elle lui montra sa gracieuseté d'habitude, mais sans élan, sans trouble. « Je suis ravie de vous voir, Gustave, lui dit-elle. On nous avait annoncé que vous habitiez Paris. Mais comment l'aurions-nous su de façon certaine ? Je ne pouvais pas venir ici puisque j'ignorais votre adresse. » « Sans doute. Ah, il faut éviter les fâcheux, tant de Robinson de Marraine, égarés dans Paris, où ils ont toujours besoin de quelqu'un et de quelque chose. » Les yeux bleus d'Amélie, ses lèvres fines et rouges brillaient de ce sourire innocent qui avait toujours charmé Gustave à Marraine. Cependant, Papette consentit, sur les instances de sa fille, à la suivre dans le cabinet de toilette. M. Cassagnol disparut bientôt sous le prétexte d'aller dans la salle à manger se rendre compte de la mise de la table. Il s'ennuyait beaucoup à Paris, le pauvre. Il manquait de ses loisirs de fonctionnaire maniaque.
Sa femme le harcelait d'exigences, de caprices, depuis le matin jusqu'au soir. Combien de fois ne formait-il pas le souhait que cette vie absurde d'agitations inutiles cessât enfin ? Aussi, s'en remettant au hasard, comme tous les lâches, ou à l'inspiration d'autrui de modifier le cours actuel des choses, il voulut laisser les deux enfants quelques minutes en tête à tête. Qui sait ? Gustave, en évoquant devant Amélie l'image radieuse de leur petite ville et de la maison des Mourez, si pleine d'amour où ils étaient attendus, Gustave saurait peut-être, pour le bonheur de tous, reconquérir Amélie à son rêve de fiançailles. Amélie comprit tout de suite l'arrière-pensée de son père, et le sentiment de sa faiblesse auprès de Gustave la déconcerta pour la première fois. Debout, dans la clarté du jour, elle n'osait regarder Gustave lorsqu'à brûle-pourpoint, il interrogea. « Pourquoi ne m'avez-vous jamais donné de vos nouvelles ?»«
Vous en aviez par papette. »
« Mais pourquoi n'était-il pas autorisé à confier, même à moi, votre adresse ?»«
Vous oubliez, Gustave, que c'est maman qui gouverne. »
« Voyons, voyons, êtes-vous fâché contre moi ?»«
Non. »
« M'aimez-vous encore ?»«
Vous le savez bien. »
« Mes parents vous ont toujours aimé, et autant que moi-même. »«
C'est vrai, ils sont très bons.
Ils vous ont toujours conseillé la patience à l'égard de votre mère, dont vous ne cessiez de vous plaindre. »
« Taisez-vous, Gustave. »
« C'est votre mère qui a tenté, en vous transportant à Paris, de vous arracher à vos promesses. Mais pour vous garder à moi, je suis prêt à subir les plus pénibles sacrifices. »«
Pardonnez, comprenez. »
« Si vous m'aimez, vous n'avez pas besoin de mon pardon. » Ici, je suis détesté.
Oh !
Oui, par votre mère. Cependant, j'ai voulu venir. Gustave soudain s'interrompit. Madame Cassagnol s'avançait à grands pas rapides. Il fixa sur elle des regards si pleins d'appréhension, de tristesse, qu'elle perdit contenance une seconde et se tourna vers sa fille. Celle-ci, qui avait aussitôt recouvré son calme, joignit sa mère d'une allure caressante. Elles demeurèrent un moment en extase l'une devant l'autre, comme deux amies ou deux complices, liant leurs bras avec gentillesse, Madame Cassagnol, robuste, exubérante de la santé de son corps, ainsi qu'elle eût souhaité de l'être par l'importance de sa fortune, Amélie, insinuante, fragile, ayant la souplesse d'une liane au printemps. Et toutes les deux semblèrent, pendant un silence, ne plus avoir souci du jeune homme, qui était là, un étranger. Papette reparut, plus alerte, ragaillardie par la fraîcheur de ses ablutions. On l'attendait pour passer à table, où, naturellement, par une politesse traditionnelle, on plaça Gustave auprès d'Amélie. Dès le potage, Papette remarqua qu'on ne mangeait plus sans façon, mais avec une certaine cérémonie, à l'instar du grand monde. Est-ce que sa fille Rose croyait, par hasard, qu'en changeant de pays, elle avait changé de condition ? Il comprit tout à fait que Gustave n'avait plus aucune chance d'épouser Amélie si lui, l'ancêtre, ne menaçait pas ses niais d'enfants de la privation de son héritage tant convoité. Un père de famille n'a sans doute aucun moyen de priver de sa fortune, à sa mort, ses héritiers légitimes. Mais il peut, durant sa vie, trouver dans la loi des arrangements qui satisfassent sa volonté. Seulement, Papette Rességuier oserait-il, devant ses enfants, formuler au moins de vive voix une telle menace ? Il ne parlait plus guère, il mangeait sans appétit. Gustave souffrait d'une gêne au milieu des conversations qu'entretenaient surtout Madame Cassagnol et sa fille. M. Cassagnol ne jetait que quelques mots sans intérêt, car il avait toujours la frayeur de se compromettre. La bonne, en tablier blanc, en corsage et jupe rouge, évoluait à merveille autour de la table, présentant les plats à chacun des convives, versant le vin dans les verres de cristal, offrant la corbeille de pain. Toutes ces manières agaçaient le paysan de Marraine. Son impatience enfin éclata. « Alors, Gustave, tu as un emploi, tu travailles ?»«
Oui. »«
Mais où ? Comment ? Dans la littérature ?»«
Ma foi, oui. »«
Hein ! Y gagneras-tu ta vie ? Ce n'est pas un métier, la littérature. »
« Évidemment non !»
ricana Madame Cassagnol. « Dans tous les cas, ce n'est pas moi qui me moquerai de Gustave. S'il échoue dans sa tentative, il aura du moins accompli son devoir en exerçant au travail ses facultés. »«
Personne n'a l'intention de se moquer de Gustave, mon père. » »«
On aurait tort. Il ne fait de mal à personne et toute ambition généreuse est légitime. On ne risque jamais de provoquer l'ironie ou la pitié de son prochain quand on ne vise pas plus haut qu'on a la force d'atteindre. »
Papette frappait la table de ses poings noirs et ridés dans un étrange rire d'orange qui, dès le premier soir, assombrissait la réunion de sa famille. Gustave craignait d'être détesté plus encore de celle-ci, puisqu'il était, malgré lui, la cause de l'irritation de Papette, et des yeux, des mains, il le supplia de s'arrêter. Papette, au contraire, persista. « Alors, Gustave, tu es content ?»«
Oui, parbleu. »«
Et dans quelles conditions ton emploi ?»«
Eh bien, je vous dirai d'abord que je demeure de l'autre côté de Paris, tout près de la Porte Champéret. Mon maître, qui est un ancien éditeur libraire, s'appelle M. Rucois. Aujourd'hui, il écrit des livres à son tour, non des romans, des livres d'histoire. Il me donne, oh, pas grand-chose, 100 francs par mois. Mais je prends tous mes repas chez lui.
Il a une famille ?»«
Oui, Papette. »«
Ça, très bien, ça me plaît. »«
Oui, il y a Madame Rucois, qui ne fait pas plus de bruit qu'une chatte, et Mademoiselle Jeanne, qui est la fourmi de la maison. »
Alors Gustave épia une seconde, non sans malice, Amélie, qui, toujours usée sous des apparences de candeur, ne bougea pas.
Madame Cassagnol, afin de racheter son injure de tout à l'heure, poussait de petites exclamations de surprise et de ravissement. Papette, lui, dans sa joie croissante, pétrissait énergiquement sa serviette sur ses genoux.
« Sans doute, conclut Gustave, mon emploi de secrétaire ne vaut pas le pérou. Mais enfin, j'assure ma modeste existence et je ne dois rien à personne. »«
Très bien, parfait. Donc, chez ton monsieur Rucois, il y a une jeune fille ?»«
Oui, Papette. »«
Est-ce qu'elle est jolie ?»«
Ma foi, elle n'est pas mal du tout. » »«
Tu ne vas pas t'en amouracher par hasard ?»«
Pas si vite, plaisanta Gustave. »«
Ah, c'est très heureux. »
Maintenant, Gustave, encouragé aux confidences, se réjouissait de provoquer autour de lui une émotion d'étonnement et du dépit peut-être. Il repartit avec calme et comme jaloux de montrer une sorte d'orgueil. Les Rucois ont possédé autrefois une grande fortune. Ils connaissent bien la vie, surtout la vie de Paris, et ils considèrent les gens et les choses avec indulgence. Ils sont très bons pour moi. Je retrouve chez eux quelque chose de la simplicité de chez nous. Aussi, je les affectionne de tout mon cœur.
Très bien, Gustave, applaudissait Papette.
D'ailleurs, il y a dans Paris, plus qu'on ne le croit généralement, des familles honnêtes, paisibles, qui ont le culte de leur foyer.
Ça, c'est très vrai, s'écria Madame Cassagnol.
Tant mieux, dit Papette. Si je les rencontrais, les Rucois, je leur dirais que tu es un brave enfant qui mérite, autant pour les tiens que pour toi-même, d'être aidé.
« Je pense qu'ils se sont déjà aperçus que je le mérite, » fit Gustave avec une présomption naïve.
Le dîner s'acheva doucement en une atmosphère de conciliation et de tendresse. Au salon, Amélie, qui affectait une souriante élégance, offrit les petits verres de liqueur. Ensuite, désireuse de se dérober au contact de Gustave, de qui la sincérité lui faisait un peu honte, elle se mit au piano.
Madame Cassagnol, qui savait être aimable quand elle le voulait bien, s'informa auprès du jeune homme, en mère attentive, des soins qu'il prenait de sa santé, des conditions matérielles dans lesquelles il avait établi son petit ménage d'étudiant. Et, s'excusant de ne l'avoir pas, dans la pénible besogne de son installation, appelée rue Toulier, elle lui demanda des nouvelles de ses parents mouraises.
Monsieur Cassagnol, comprenant à son tour la nécessité impérieuse de conserver l'affection de Gustave, qui était l'enfant gâté du papette à héritage, répéta les paroles cajoleuses de sa femme. Gustave, quoique méfiant sous tant de flatteries, observait parfois la souriante Amélie et, dans la pensée de son amour renouvelé, frémissait de bonheur. Papette, du fond de son fauteuil, examinait béatement le décor du salon, les tableaux, les lumières, les tentures, dont l'opulence ou la fantaisie ne l'éblouissait pas. Lui qui n'estimait, dans les sentiments comme dans les choses, que le solide, le vrai, il redoutait que sa fille, pour s'entourer de ses richesses extravagantes, ne se fût endettée sur la pension de retraite de son benêt de mari. De temps à autre, il soupirait dans malaise, frappait des pieds avec une irritation puérile, et sans en avoir l'air, fermant à demi ses paupières fripées, il guettait le manège séducteur des Cassagnol auprès de Gustave, ou bien les grâces apprêtées d'Amélie, s'isolant au piano, pauvre enfant que sa mère élevait dans les fadaises d'une oisiveté funeste. Tout à coup, il sursauta, aussi leste qu'un grillon dans les blés, et dit « Je n'en puis plus, il faut aller se coucher. » Amélie s'arrêta de jouer et, non sans stupéfaction, se détourna. Elle l'avait bien oublié, son vieux papette. « Voilà plus de 24 heures que je n'ai pas ôté mes bottines, » reprit-il. « Moi qui ne porte guère que des sabots. »«
Chut !» se récria Madame Cassagnol. « Tais-toi, papette !»«
Pourquoi ?»«
La bonne pourrait t'entendre. » »«
Après !»
On saurait bientôt dans toute la maison que tu ne portes que des sabots et que tu habites seul notre jardin là-bas.
C'est ça qui m'est égal. Allons, adieu, Gustave. Tu reviendras ici, j'espère.
Gustave, inhabile au mensonge, hésitait à donner une réponse ferme. Mais les Cassagnol, Amélie même, joignirent si gentiment leurs prières à celles du paysan qu'enfin il se décida.
Bien, je reviendrai, mais ce soir, je serais indiscret de rester plus longtemps.
Je ne te fais pas fuir par hasard.
Non, vous avez besoin de repos. Au revoir.
Gustave embrassa Papette Rességuier de tout son cœur, puis, à la hâte, salua les Cassagnol qui protestèrent encore de leur amitié. Mais la main d'Amélie dans la sienne lui parut inerte, sans chaleur.